Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Richard, est-ce que tu peux partir une sirène d'état d'alerte, une forme d'appel à l'urgence, à la planification? Parce que nous allons aborder un sujet extrêmement délicat qui mobilise les forces vives du ministère de l'Éducation du Québec. C'est sous-ministre... Voilà. Alors, tout ça, c'est pour vous parler de l'éclipse. bon, alors, le ministère de l'Éducation du Québec a clarifié ses directives. Et précise que les écoles sont encouragées par Bernie et sa gang à tenir des activités extérieures supervisées et sécuritaires. Est-ce qu'on est peut-être un petit peu en retard finalement dans tout ça, Luc?
Tellement, mais c'est ridicule sur toute la ligne évidemment parce que là, il avait pris une décision. Il y avait deux décisions à prendre. Soit on centralise, on dit ok, c'est une éclipse, tout le monde va la regarder, on va envoyer. On va s'assurer qu'il y a des lunettes pour tout le monde. Évidemment, il y a des impacts sur le budget transport, il y a des impacts sur le budget salaire. OK, une petite enveloppe par école. Si l'enveloppe, mettons, c'est moins de X 000, c'est le centre de services scolaires va la fournir. Si c'est plus, le ministère va la fournir. Voilà une opération centralisée. Ça, c'est centralisé.
Pour un événement prévisible.
Oui. Ça, oui, prévisible de long terme.
Mettons, on aurait pu y penser il y a 2 ans.
Exactement.
Si la machine prend du temps, mais il y a au moins 2 ans.
Alors qu'il y a 2 ans, déjà, l'Association pour l'enseignement des sciences et des avait déjà dit ça. Donc ça, c'est l'option A. L'option B, c'est de dire, ben on va laisser aux écoles le choix de gérer. Correct. T'sais, chacun fait comme il veut. CSS, après tout, c'est pas fait juste pour passer à MOP, ça. Vous avez de la marge de manœuvre. Vous êtes capable de décider des choses. Les écoles privées, pareil. Alors, vous allez gérer. Ceux qui veulent se doter d'une opération avec, etc., vous allez le faire. Là, évidemment, le ministère a fessé juste entre les deux. Évidemment, rendant les deux inopérantes. Parce que, à partir du moment où tu envoies une directive à dernière minute, juste avant la semaine de relâche, en disant on vous recommande de ne pas tenir d'activité à l'extérieur, donc il faut que tu gardes tous les enfants à l'intérieur, donc il y a des salaires qui sont reliés à ça. Et deuxièmement, on vous recommande que les enfants qui sont du côté de l'école ou qui fait face au soleil, que vous fermiez les stores et que les enfants fassent dos aux vitres. Mais là, tu as une recommandation du ministère. Et donc, si l'école ne met pas en place des moyens pour la mettre en œuvre, elle pourrait être poursuivie par un professeur, un enfant, par exemple, qui aurait été victime d'une petite lésion la rétine. J'allais dire l'iris, la rétine. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les poursuites. Les poursuites, c'est est-ce que l'école a fait tout en son moyen, a tout mis en œuvre pour éviter qu'un drame? La réponse, si l'école a envoyé une directive à tout le monde, si l'école a organisé une activité, si l'école a fourni des services, c'est oui. Même s'il y en a un qui enlève ses lunettes et qui regarde le soleil, c'est oui pareil. Si l'école a dit, il y a des professeurs qui veulent faire regarder l'éclipse, voici comment procéder, ceux qui veulent pas, ben bon vent, c'est encore oui. C'est une vraie directive. Mais s'il y a une autre directive qui arrive du ministère puis qui dit, surtout, laissez-les pas sortir dehors, puis surtout, faites-les faire dos au soleil, là, t'as une poigne pour poursuivre. Et puis là, ça rend ridicule toute l'opération.
Hey, arrête, Luc, avec tes directives, là. Je suis toute mélangée. Non, mais le gouvernement.
T'es pas toute seule, elle est toute mélangée.
Ben, c'est ça. Non, mais le gouvernement, sérieusement, vient de s'acheter un sketch dans le prochain bye-bye, là. Tu l'as dit, tellement. Paul. C'est tellement ridicule. C'est un vrai cirque. J'ai envie de vous dire l'éclipse solaire, un événement historique éclipsé pour les mauvaises raisons. Si je fais un petit jeu de mots ce matin, c'est vraiment gênant. Bon, il y a bien sûr le ministère de l'Éducation. Parce que bon, je trouve que dans cette histoire, le joueur qui est à blâmer, ce n'est pas le ministre, mais bien plutôt le ministère qui a manqué de proactivité, on l'a dit, là. L'association scientifique, je me souviens plus c'est quoi exactement.
L'association d'enseignement des sciences et des technologies, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Fait ses représentations il y a 2 ans. Alors, le ministère a dormi au gaz, comme on dit en bon français. Et ça, c'est un. Deuxièmement, la bisbille entre le ministre et son ministère. Un ministre et un ministère qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, on sait, ça fait des étincelles parce qu'il y a une contradiction qui est flagrante entre les deux. Le fait que la directive soit arrivée tardivement, le fait que le ministère et le ministre se contredisent, tout ça met en lumière à quel point c'est difficile parfois de gérer ce qui, au départ, aurait dû être très, très simple. Au ministère, on a choisi... on a choisi la voie de la facilité en disant, ben, en faisant miroiter le spectre de la peur, parce qu'on a peur d'avoir peur. On aurait pu choisir une toute autre voie, celle de la proactivité, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire le nécessaire il y a 2 ans pour acheter les lunettes dont les écoles ont besoin. Mais on a vraiment mené une opération de nivelage, en fait, de nivelage par le bas, je vais le dire comme ça. Et moi, je trouve ça bien, bien triste parce que je trouve que c'est très... ça démontre à quel point... C'est très révélateur, en fait, du manque d'audace de nos grandes institutions. Et le ministère de l'Éducation fait partie de nos grandes institutions au Québec. L'école qui fait peur plutôt que faire rêver. Moi, je trouve ça immensément triste parce que l'école, au départ, c'est ça, hein? C'est faire rêver les jeunes, c'est leur permettre de vivre toutes sortes d'expériences. Mais là, on est en train de transformer cet événement historique. Tu as bien choisi l'image sonore pour l'illustrer, Paul, la sirène rouge. Puis, écoute, c'est l'alarme. Alors, moi, je trouve ça extrêmement déplorable et j'espère que dans le futur, on évitera ce genre de cafouillage qui vraiment nous fait paraître très, très mal. Quand je parlais de cirque, là, c'est vraiment gênant.
Il y a eu une éclipse aux États-Unis, je pense autour de 2016, dans certaines régions. Puis il y a 200 millions de personnes qui ont vu l'éclipse. Il y avait des opérations comme ça pour la voir avec des lunettes, puis des boîtes avec un trou dedans, puis toute la patente. Puis il y a eu 100 de lésions aux yeux. Donc, 1 sur 1 million, 1 sur 1 million ou 1 sur 2 millions. Puis lésions aux yeux, à la rétine, ça veut pas dire permanent, là. Ça peut vouloir dire des taches noires pendant un certain temps, etc. Ben, si tu reportes ça sur la population qui va être touchée par l'éclipse au Québec, ça donne 0 cas. Donc, ou 1 cas.
Ça prend juste un cas, Luc.
De même que lorsqu'il y a du verglas, il y a des cas. D'accord. De même que lorsqu'il y a des engelures lors d'une journée très froide, tu sais, la météo peut provoquer des incidents. Alors, le risque, il existe, mais il est mesuré.
Non, mais c'est parce qu'en plus, on sait que ça va arriver.
Ouais, c'est ça.
Okay? Oui, c'est ça.
Donc, on va être exposé à une éclipse. Quelle est pour les enfants la meilleure façon de vivre ce moment-là, puis je parle pas juste sur le plan éducatif, c'est probablement à l'école, puis que ça soit préparé. Ben oui. Ça aurait dû être préparé d'avance.
Puis c'est une affaire d'horaire, hein, Paul. Pourquoi ça n'a pas été préparé d'avance? C'est une affaire d'horaire. Pourquoi? Regarde la preuve que c'est une affaire d'horaire. Les CPE vont rester ouverts. Donc, si les CPE restent ouverts, c'est que c'est possible de rester ouvert.
Ben oui.
C'est donc que, ça va prendre un surveillant de plus, ouais, mais transport scolaire, oui, mais ceci, oui, mais cela.
Mais tout devient compliqué. On a monté cette histoire-là. Écoute, on a fait une montagne avec cette histoire-là parce que le résultat, c'est que la moitié des centres de services scolaires au Québec vont être fermés. Il y a des parents qui vont être en congé forcé le 8 avril. C'est une occasion manquée. C'est dommage. Quand je parlais de ce que dit la gestion de cet événement au ministère de l'Éducation, quand je vous dis qu'on manque d'audace dans nos grandes institutions, je trouve que ça en est un bon exemple. Tu sais, c'est
mais
malheureux.
C'est ça. Oui, mais Nathalie, c'est ça maintenant, la gestion gouvernementale et municipale du risque, c'est devenu ça. Regarde, tout le débat sur l'ouverture des maisons pour femmes victimes de violences qui vont coûter 900 000 la porte. Okay? Pourquoi ce matin, il y a un détail? Parce que ça prend des moustiquaires en acier inoxydable qui coûtent 1 000 $ le moustiquaire. Parce que ça prend absolument un ascenseur pour le cas où une dame qui serait victime de violence serait aussi handicapée. Bon, on aurait pu y réserver une place au rez-de-chaussée. Non, ça prend un ascenseur dans toutes les résidences dorénavant. C'est ça, maintenant, la gestion. C'est devenu, prends un cas, puis t'en fais un exemple pour tout, là, les bibliothèques, les piscines, les centres aquatiques extérieurs, tout s'est géré comme ça.
On s'arrête là-dessus.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Marianne Saint-Gelais.
J'étais pas fière de mes médailles. Je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité. J'ai absolument rien.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, Bernard Drinville a dit hier qu'il était certain, là, pour lui, c'est acquis, que la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra va proposer un fameux troisième lien pour Québec et que ce lien sera autoroutier pour les chars. Est-ce que le ministre est trop optimiste, Nathalie?
Ah, un peu plus, puis Bernard se mettait à chanter Toujours vivant de Jerry Woulet. Vraiment, écoute, il est optimiste, pas trop jovialiste, mais encore optimiste, notre ami Bernard. Il faisait un discours devant les gens d'affaires de la Rive-Sud de Québec, et bien sûr, il a abordé l'enjeu du troisième lien. C'est impossible qu'il ne le fasse pas. Il y a beaucoup de gens encore qui s'accrochent au projet de troisième lien, croyez-le ou non, le maire de Lévis, tout d'abord, les gens d'affaires également, et les députés, dont Bernard Drinville, Martine Biron, qui ne peuvent pas tourner ou faire campagne à nouveau sans parler du troisième lien. Il faut dire que Bernard, lui, il est personnellement très associé à ce dossier-là. Moi, je l'appelle Monsieur Troisième Lien. Rien de moins, parce que Bernard s'est mouillé durant la dernière campagne électorale. Rappelez-vous, là, on n'a rien à foutre des GES. Alors, il a beaucoup, beaucoup défendu le projet de troisième lien. Alors, on va décortiquer pendant quelques instants ce qu'il a dit. Tu as référé effectivement son affirmation, celle qui a retenu le plus d'attention, Paul. Le troisième lien est acquis, tout d'abord. Ben, j'ai envie de dire, ben, j'espère, c'est le mandat de la Caisse. Deuxièmement, le gouvernement aurait l'air très fou si CDPQ Infra lui remettait une page blanche, ce qui n'arrivera pas, on s'en là-dessus, parce que CDPQ Infra va sauver politiquement le gouvernement d'une situation dans laquelle il s'est plongé, qui est extrêmement embarrassante. Il a espéré, Bernard, un lien autoroutier, mais, c'est peut-être pas ce qui va arriver, parce que le mandat de la Caisse est libellé de manière très générale. L'objectif, c'est d'améliorer la mobilité et la fluidité. Alors, c'est parce que la mobilité, l'augmentation de la fluidité peut passer par autre chose qu'un lien autoroutier. Bernard, en l'exprimant, a manifesté un souhait, sachant très bien que c'est ce que souhaitent les citoyens de sa circonscription, de d'autres circonscriptions. Ils veulent pas d'un tramway ou, par exemple, d'un trambus qui permettrait de lier les deux rives, mais bien d'un lien autoroutier. Il a aussi beaucoup insisté sur le défi technique d'unir les deux rives, comme pour s'excuser pour les bourdes commises par le passé par son gouvernement. Alors, un beau dossier à suivre, les amis. Ce n'est pas terminé, loin de là. Et Bernard, tel une Jeanne d'Arc, continue le combat, bien sûr, pour faire avancer ce dossier.
Mais moi, je veux dire merci à Bernard, parce qu'aujourd'hui, nos deux interventions portent sur ses déclarations d'hier. C'est quand
tout
même
à fait.
Un gars qui nourrit la radio. Il a gardé son cœur avec 98.5, c'est évident. Et les autres radios du Québec. Merci, Bernard. Donc, questionner sur le mandat de la CDPQ Infra, il y a un journaliste qui a dit, mais oui, mais la CDPQ Infra, le mandat de réfléchir à la mobilité entre les deux rives, a jamais dit qu'il y aurait un troisième lien. Elle pourrait arriver à la conclusion que la mobilité ne l'exige pas. Ou que ça doit être un transport en commun, par exemple par autobus, qui est sur un des deux points existants. Ça pourrait être ça, tu sais, il y a plusieurs scénarios. Et lui, il a répondu, ben non, on voit bien que le besoin est là. Et donc, cette phrase-là, on voit bien que le besoin est là, ressemble beaucoup à « lâchez-moi que les GES ». C'est le même genre de « entre nous, on s'entend, on en a besoin ». On n'a pas besoin d'études. Mais M. Drinville, vous passez sous silence le fait que la ministre des Transports, elle a produit une déclaration très coûteuse pour la CAQ et très forte, dans laquelle elle a dit, après étude des rapports origine-destination, on se rend compte qu'il y a une diminution du nombre d'usagers par rapport à la situation pré-COVID, que cette diminution-là n'est pas sur le point de changer, que l'heure de pointe a été allongée parce qu'il y a des gens qui ont plus de liberté dans l'heure de début de travail puis de fin de travail, et que par ailleurs, il y a un vieillissement de la population sur la rive sud qui fait qu'on s'attend pas à une modification importante de ces données-là dans le futur. Ça, c'est un ensemble de données vérifiées, produites par des experts qui sont pas mal plus profondes que, ben, on voit bien que le besoin est là. Donc, cette attitude-là, on voit bien que le besoin est là. Ça, c'est de ce dont on veut se débarrasser dans la gestion publique. Ce qu'on veut, c'est des analyses avec des données. Alors, on en a eu une par le ministère. Après ça, il y a eu la déclaration malheureuse de Legault un soir de défaite électorale à Jean Talon qui dit, ben là, si je comprends qu'ils veulent un troisième lien. Bon, personne n'y avait demandé, mais c'est ça qu'il a dit. Québec 125, qui fait un sondage sur la place de la CAQ, signifie que cette déclaration-là est le début de la chute de la CAQ. Ce matin dans les journaux, Québec 125, ben c'est hier, mais enfin ce matin, on le voit dans tous ces détails.
On se comptait.
Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'ils gèrent en fonction des intérêts électoraux, dépensent des milliards en fonction de leur interprétation des lois et règlements. Puis là, le ministre de l'Éducation, est député de c'est Lévis le nom du comté?
Oui.
Lévis,
oui.
Rive-Sud, oui. Lévis, bon. Fait exactement ce qui coule la CAQ. Il recommence.
Dans le dossier du troisième lien, il faut dire que le gouvernement n'a aucune vision en matière de transport collectif. Là. On a mis le rail sur les rails, le projet de tramway, pardon, sur les rails parce que trop coûteux. Bon, on verra ce que la caisse fera, mais ce dossier-là, qui est un dossier transport au départ, de transport collectif, est devenu un dossier très politique qui a plongé le gouvernement dans l'embarras. Qui le plonge sur la défensive. Il y a Martine Ouellet là, qui a levé la main pour dire hey, « j'ai moi la solution pour améliorer la fluidité entre les deux rives, un projet. » En fait, elle propose un projet de trambus pour Québec plutôt que tramway et un trambus qui permettrait de faire le lien avec la rive sud de Québec. Je ne sais pas si CDPQ Infra va tenir compte de sa suggestion, mais ça le mérite enfin d'être constructif. N'oublions pas que CDPQ Infra a fait appel à une firme française, CETEC, pour évaluer les possibilités, les options qui s'offrent aux deux rives dans ce dossier-là. Alors, quelque part, en juin, on espère que du côté de la CAQ, j'imagine qu'on espère que la lumière blanche va poindre puis qu'on aura une solution proposée aux électeurs de la Rive-Sud et de Québec également. Mais il faut dire que c'est un gros dossier pour la Caisse parce que là, on parle du troisième lien, mais il y a le tramway également. Puis avec les misères du REM pour la Caisse, pour CDPQ Infra, je peux vous dire une chose, que ça plombe un peu la... J'oserais dire, on se questionne sur l'expertise de la Caisse. Est-ce que la Caisse, en fait, a ce qu'il faut pour proposer des solutions qui sont aussi...
J'ai posé la question à M. Aymon, le président, l'autre jour, en disant, oui. Faites-vous juste des REM ou si vous faites d'autres choses dans la vie? Et il répond, on peut faire n'importe quel projet. Donc, c'est pas strictement un REM, ça peut être une autre forme de moyen de transport, une autre infrastructure. Mais lui, il a le mandat. Il n'y a pas bien le choix. On te passe une commande.
C'est
puis dis-nous ce qui.
Il n'y a pas le choix.
De faire une recommandation. Puis après ça, le gouvernement
voilà.
Décidera. Là.
Oui, puis la CDPQ Infra a l'intelligence d'aller chercher l'expertise où elle se trouve. Elle a les moyens pour le faire. Puis après ça, si elle juge que c'est un bon projet, elle va le recommander. Ouais. Puis peut-être le financer et le construire. Mais c'est une façon bien différente de ce que Drainville nous expose, puis qui gère le troisième lien comme il gère l'éclipse.
Non, mais là, il crée des attentes à Québec. Là.
Non, oui. Mais oui, mais Bernard, il fait de la politique, les amis. Là. Bernard,
mais, OK, mais Nathalie, j'ai une question pour toi, alors. Puisque c'est une question politique, une question qui me brûle la langue.
Oui, imminemment politique.
Ben, alors, dis-moi, est-ce que la CAQ veut vraiment gagner trois comtés sur la Rive-Sud puis perdre des milliers de votes à travers le Québec? Parce que c'est ça qui est en train de se produire.
Ben là, de toute façon, tramway ou pas, ou troisième lien ou pas, il en perd de toute façon. Là. Il se retrouverait à 11 députés à l'Assemblée nationale. Il serait même pas reconnu officiellement comme un parti politique à l'Assemblée nationale.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.